Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et avec nous, évidemment, comme toutes les semaines, Jean-Pierre Foultier. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, après avoir parlé de l'Europe du sport, des pays baltes et de leur paysage culturel au cours de ces dernières chroniques, vous avez choisi cette semaine de nous présenter une nouvelle série de chroniques culturelles de l'Europe que vous allez donc consacrer à
l'Europe de l'opéra. D'abord parce que l'opéra tient dans l'histoire des siècles passés comme dans le paysage culturel européen d'aujourd'hui une place importante. Et puis pour une raison plus d'actualité, la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin, a récemment conçu une exposition à 11 panneaux consacrée justement à l'Europe de l'opéra. Cette exposition est en cours de réalisation. C'est donc en parallèle et peut-être aussi en complément de cette exposition que j'ai jugé intéressant de consacrer une série de 5 chroniques à ce phénomène culturel a été l'opéra dans l'histoire et qu'il est encore dans l'Europe culturelle d'aujourd'hui.
Alors, pas se le cacher, l'opéra, c'est un style de musique et une pratique culturelle qui est jugée parfois peu facile d'accès, un peu élitiste.
C'est un reproche qu'on lui fait. J'essaierai de montrer dans ces chroniques que l'opéra a une histoire qui s'inscrit pleinement dans l'histoire européenne et que si l'opéra a été, à ses débuts surtout, un spectacle de cour ou aristocratique, cela n'a pas été le cas toujours et partout et ne l'est plus aujourd'hui. Certes, les chiffres de fréquentation des salles lyriques ne sont pas particulièrement élevés. Toutefois, un sondage récent réalisé en France montrait que 16% des personnes interrogées disaient assister au moins une fois par an à un concert de musique classique ou un opéra, contre 33% pour d'autres types de musique et 27% pour des pièces de théâtre. D'autres enquêtes montrent que si un tiers des spectateurs de l'opéra sont des retraités, un tiers ont moins de 46 ans et 19% moins de 30 ans, hors public scolaire d'ailleurs. Un public plutôt féminin, mais pas si vieux qu'on le qualifie parfois. Il s'est démocratisé et l'on va aujourd'hui à l'opéra, pas seulement dans les grandes salles des capitales européennes, mais dans des villes moyennes, comme Limoges par exemple. Je n'ai pas pu avoir de statistiques au niveau de l'Europe, mais d'autres pays sont mieux placés que nous en chiffres de fréquentation comme en nombre de représentations. L'Allemagne arrive en tête, suivie de l'Autriche, qui est bonne première si on ramène le nombre de représentations d'opéra par habitant, et la ville de Vienne où se joue le plus d'opéra au monde. La France arrive en troisième position, c'est pas mal, et la ville de Paris en cinquième. Ce que je vais m'efforcer de montrer dans cette série de chroniques, c'est que l'Europe tient une place fondatrice dans l'art de l'opéra et qu'il y a bien un art européen de l'opéra qui a gagné aujourd'hui le monde entier. Les œuvres et les compositeurs les plus joués dans le monde sont européens et l'on joue la Traviata, Carmen ou la Flûte enchantée à l'opéra de Sydney, au Met, opéra de New York ou à Pékin.
Alors, vous nous dites, je remonte en arrière, une Europe fondatrice de l'opéra.
Oui, et je consacrerai plusieurs chroniques à ce patrimoine européen commun. Je raconterai quelques histoires d'opéra et nous écouterons aussi, bien sûr, quelques musiques.
Et l'opéra qui serait donc né en Europe ?
Sous la forme que nous lui connaissons, oui. En 1607, retenez bien cette date, Sébastien, si vous voulez que je sois précis. Mais je vais y revenir. En fait, selon la définition, l'opéra est un spectacle théâtral dans lequel les rôles sont chantés, nous verrons qu'il y a des exceptions, et accompagnés par un ensemble de musiciens. En fait, dès l'Antiquité grecque, on chante sur scène dans les comédies ou tragédies. Au Moyen-Âge, des spectacles chantés d'inspiration religieuse, surtout, sont joués dans les cathédrales elles-mêmes. En dehors de l'Europe, des formes de théâtre chanté existent, en Asie notamment. Mais c'est un opéra aux formes traditionnelles figées, alors que l'opéra européen, nous le verrons, a été en constante évolution, comme un miroir des sociétés et des époques en Europe.
Alors, cela dit, vous m'avez dit de retenir 1607, donc je voudrais bien qu'on y revienne pour savoir quand même ce qui s'est passé.
Un peu de musique pour accompagner sur scène l'apparition de l'opéra en Europe. « Cette marche majestueuse à grand renfort de trompettes, c'est l'ouverture de l'Orfeo de Claudio Monteverdi, représenté pour la première fois à la cour du prince de Gonzague à Mantoue en 1607. Et on considère que cette œuvre marque la naissance de l'opéra.
Et alors du coup, que raconte-t-elle ?
Comme dans beaucoup des opéras qui suivront à une époque au XVIIe et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, que l'on désigne sous le terme d'époque baroque, la plupart des sujets sont puisés dans l'histoire et surtout la mythologie antique. L'Orfeo raconte l'histoire d'Orphée, poète et musicien légendaire, représenté souvent avec sa lyre, qui, après la mort de son épouse Eurydice, la suit jusqu'au royaume des morts. Il obtient de Pluton qu'elle revienne à la vie à la condition qu'il ne se retourne pas vers sa bien-aimée ressuscitée. Malheureusement, il ne peut s'en empêcher et Eurydice meurt une seconde fois. Écrasé de chagrin, Orphée retourne se livrer aux divinités des enfers.
Pas forcément très réjouissant.
Non, et Monteverdi lui-même, jugeant cette fin un peu sinistre, en réécrira une un peu moins tragique. Mais si les thèmes mythologiques sérieux demeurent, chez Vivaldi notamment, les compositeurs italiens vont se tourner progressivement vers une forme dans laquelle la comédie trouvera sa place. C'est l'apparition de ce qu'en Italie on nomme l'opéra buffa, en français opéra bouffe. Les thèmes sont ceux de la vie réelle, comme dans la servante patronne du compositeur napolitain Pergolèse, une véritable comédie dans laquelle une soubrette ambitieuse arrive par une suite de fourberies à convaincre son patron, un vieux barbon acariâtre, de l'épouser. Et un dernier aspect que je voudrais aborder dans cette première chronique très italienne, c'est l'emploi généralisé à cette époque pour les rôles d'hommes ou de femmes de castrat. Je vous en lis la définition qu'en a donnée notre Jean-Jacques Rousseau. Un castrat, c'est un musicien qu'on a privé dans son enfance des organes de la génération pour lui conserver une voix aiguë. Il se trouve en Italie des pères barbares qui, sacrifiant la nature à la fortune, livrent leurs enfants à cette opération pour le plaisir de gens voluptueux et cruels. Fin de citation. Le plus connu de ces castrats, par un film qui lui a été consacré, c'est Farinelli, qui triompha au cours du XVIIIe siècle en Italie, mais aussi en Espagne. La semaine prochaine, nous parlerons de l'opéra en France.
Oui, quand même, soyons un minimum chauvin. Donc, il faudra revenir nous voir pour ça la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine Jean-Pierre.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.